Bienvenue sur
Tokyo Yume.
Tokyo Yume sur Couleur FM 97.1, la seule émission qui traite du manga, de la pop asiatique, des jeux vidéo, des dramas, des yaoi, des hentai, du cinéma, de la cuisine, de plein de trucs super cool, super chouettes que vous allez découvrir ou alors que vous connaissez déjà. Et on va vous présenter ça pendant une heure de non-stop. Après une heure de section musicale, donc Tokyo Yume, vous allez écouter de tout. Si vous aurez de la J-pop, vous aurez de la K-pop, vous aurez des musiques d'anime, vous aurez de l'OST, enfin bref, vous allez passer vraiment deux heures de folie non-stop, quoi. Vous allez adorer. Donc, on commence tout de suite l'émission parce que le temps passe très très vite, surtout quand on est en bonne compagnie, on compte plus les minutes, quoi. Donc, du coup, on commence tout de suite avec notre cher ami Chamallow. Comment ça, Chamallow ?
Eh bien, super bien, et toi ?
Est-ce que t'as guéri depuis la semaine dernière ?
Eh bien, écoute, oui, largement.
Ah, ça fait plaisir.
Sans hésiter, là.
Ça s'entend.
La semaine dernière, il nous a fait une petite OST perso, là, c'est pas mal. Bon, alors, ce soir, toi, tu vas nous parler de la culture, c'est ça ?
Voilà, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
Je vais vous parler des plats qui sont complètement folles dingo à déguster au Japon. Un truc à absolument essayer ou pas.
Ouais, voilà, on n'est pas obligé.
Voilà,
c'est ça, ça existe, mais
pour
on
les
a
plus
le
courageux.
Voilà, pour les plus courageux.
Ou ouais. Les plus inconscients.
Eh bah, pas de soucis. On continue la présentation de la team avec notre cher ami Botan. Applaudissez très fort.
Ouais.
Alors, Botan, on reste dans le domaine de la cuisine, j'ai envie de dire.
Voilà, on reste dans la cuisine. Voilà, exactement. On revient à la base.
D'accord.
Et je vais vous présenter une recette de curry japonais.
Voilà, le genre de recette qu'on apprécie bien et qu'on essaye de faire et qu'on réussit.
Qui est simple. Non, qui est très simple à faire. Très simple à faire. Oulala.
Est-ce qu'il y a de la tomate?
Oulala.
Eh ben, on en parlera après.
Ah ben voilà, il y aura un petit débat là. Allez, justement, celle qui a posé la question qui fâche, c'est notre cher ami Lorato.
Ouais.
La fouteuse de merde officielle.
Oh.
Alors, donc, Lorato, ah, attention, Lorato, c'est du lourd parce que là, c'est le jeu vidéo d'actualité. Voilà, elle a testé.
Maintenant, ça fait un peu quelques semaines quand même.
Elle a testé en long et en large.
Ouais.
Et en travers.
Ouais.
Mais sans arriver à la fin pour autant.
Non, je suis pas encore arrivée à la fin parce que en vrai, je l'ai testé en. Non, c'est juste que je fais. J'ai pas beaucoup fait le mode histoire. J'ai plus joué en.
Ouais, t'es plus joué avec tes potes quoi.
Voilà.
Parce que Lorato a des amis, oui, contrairement à ce que
ça m'arrive des fois. Wow. Quand j'ai des sous, je les paye.
D'accord, ok.
Parfois, ça leur arrive.
Ok, donc dossier Injustice.
Oui, Injustice 2.
Pas de soucis, avec grand plaisir. Alors, il est venu la semaine dernière, vous l'avez publicité parce que vous l'avez adoré. Vous avez dit, mais c'est quoi cette voix sexy là? C'est qui ce mec qui vient de nulle part? Est-ce lui qui avait fait le fameux dossier Reborn? Oui. Qui avait fait la réputation de Tokyo Yume? Eh ben, c'est bien lui, il est là. Allez, applaudissez Ace, s'il vous plaît.
Ouais, de retour.
Il est bon.
Comment ça va, Ace?
Ça va, tranquille, tranquille.
Toujours avec ta fangirl?
Toujours.
Voilà, mais par contre, c'est toujours la même.
Bah oui, quand même.
Il en faut qu'une.
Voilà, il en faut qu'une. Et il dit pas, hein, tu vois. C'est nous qui les avons la face.
Ouais, parce que.
Là, lui, c'est où sont les autres? Alors, donc la semaine dernière, tu nous avais fait voyager, d'accord, avec Simba Noboken. Et cette semaine, tu nous parles de quoi?
Ah, cette fois, on va plus loin, on va dans l'espace.
Ouais, avec, c'est un gros voyage, quoi.
Ah, Macross Delta.
D'accord, il y est.
Donc, voilà.
Avion et musique, j'ai envie de dire.
Ouais.
Voilà.
Musique aussi.
Faut pas l'oublier, la musique, c'est très très important dans ces animés-là, quoi.
C'est vrai.
Ok. Donc, voilà, vous avez du dessin animé, du jeu vidéo, vous avez de la culture. Et alors, si tout se passe bien, si on a le temps, vous aurez aussi un dossier manga avec une nouveauté qui s'appelle Fire Force. Donc, du coup, du même auteur que Soul Eater qui sort chez Kana. Et peut-être un film d'animation, un petit Silent Voice, je sais pas. Tout évidemment, comme d'habitude, ça dépend si on a le temps. Et en général, on l'a pas. Donc voilà. N'attendez pas ce dossier en se disant
on
ouais.
Sait jamais.
Voilà.
Ne vous faites pas de faux espoirs.
Après voilà, sur un malentendu, un dossier qui se perd, un animateur qu'on zappe, voilà, ça peut arriver.
Et une mort en direct.
Voilà ouais. Bah Aro, c'est non.
Adieu.
Aro n'est plus là. Bon allez, comme d'habitude, vous aurez évidemment de la musique. Et donc pour commencer, voilà histoire de d'envoyer de la. On va dire de la bonne énergie. Je vous propose Kuroko no Basket avec Last Game, donc du coup le nouveau film celui où ils se battent contre les États-Unis avec le même groupe qui a fait la plupart des génériques, qui a fait justement évidemment la BO de ce film-là. C'est tout de suite en totale exclusivité sur Tokyo Yume.
Take it to me down.
Et ben, on reconnaît bien le style, hein.
Oui.
Ça, on reconnaît bien Kuroko Basket. Hein.
Doux, si... délicat, absolument pas de rock.
Ah bah oui, c'est
classique.
Ah, doux comme le basket.
Exactement.
Un petit piano.
Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite mise en bouche façon Tokyo Hime. Là, on va commencer tout de suite avec le dossier parce qu'on a mine de rien beaucoup à faire si tout se passe bien. Et donc du coup, alors la semaine dernière, il passait dernier et là une promotion. Alors, c'est comme dans le, vous voyez le fameux Shonen Jump, le magazine Shonen Jump. Vous savez que les, il y a un vote qui se fait à chaque volume. Et donc du coup, selon les votes, et ben voilà, les premiers
des
chapitres
pages
commencent.
Centrales, des choses
alors,
comme ça, hein.
Le premier, celui qui a en fait à chaque fois un concours de popularité. Ils avaient lancé ça exprès justement pour motiver les mangaka comme s'ils n'étaient pas déjà assez motivés
ouais,
en
grave.
Soi. Et donc du coup, voilà, le premier a le droit à la couverture, ce qui est pas rien, avec 3-4 pages couleur et justement le fait d'arriver premier quoi. Donc considère que c'est un peu une promotion, voilà, c'est comme si ton dossier la semaine dernière était le meilleur quoi.
Je le prends
chose
bien.
Chose qui est pas du tout le cas, mais il faut le prendre comme ça. OK. Allez, c'est parti donc du coup pour Macross Delta.
Voilà, donc Macross Delta, donc c'est un animé de type mecha space opéra, d'où l'intérêt en termes de musique. Donc c'est sorti en 2016, en avril
récent.
2016, donc c'est plutôt récent. Alors il y a trois personnages vraiment importants dans Macross Delta. Donc on va avoir Hayate Himmelmann.
Alors parlons un peu de l'univers justement de Macross, parce que c'est vrai que mine de rien, c'est pas tout le monde qui connaît. J'ai pu le voir
du
justement,
tout.
On posait la question.
Tout, moi.
Voilà, et ben alors. C'est quoi, ça se passe où Macross? Donc alors, on avait dit dans l'espace.
Bah en gros il y a plein de planètes avec des humains et des non-humains.
Ouais, c'est planètes colonisées.
Ouais, ouais. Voilà, mais du coup il y a un peu de tout. Il y a des humains qui ont des branchies par exemple.
Des hommes poissons.
Ouais, des hommes poissons. En effet. Et en gros ils ont toujours des problèmes avec des espèces extraterrestres ou des virus.
D'accord.
Donc
d'accord.
Dans celui-là, il y a le syndrome Void.
Ouais.
Et les personnes qui sont contaminées par ça, ils perdent le contrôle total sur eux.
Sympa, hein.
Et ils se font contrôler en fait.
D'accord.
Bah, au début, on sait pas trop par qui. Ouais, mais,
par une entité inconnue pour
par quelque
une
chose.
Entité inconnue au départ.
Alors, voilà. Et la particularité dans les Macross, c'est justement comment ils se battent alors.
Du coup, ils ont des mechas en fait pour protéger des chanteuses. Et c'est les chanteuses en fait qui vont combattre les.
Ça me rappelle quelque chose.
Ouais.
C'est incroyable.
Le space opéra, il
ouais,
y en
ouais.
a plusieurs et
ouais,
ça fait toujours le même principe. Donc en gros, elles émettent des ondes qui permettent de combattre le virus dans celui-là.
Ah, après, c'est dans celui-là.
Oui.
Et celui-là, j'ai mis un cross.
Ouais, non, mais t'as toujours un peu ce
dans
principe.
Dans le précédent, elles pouvaient combattre les espèces extraterrestres. Genre, elles arrêtaient d'attaquer quand elles chantaient. Enfin.
Ouais, d'accord, ok.
On garde le principe, quoi.
Ça a l'air con comme ça, mais c'est.
Mais en fait, ça me dit gravement quelque chose, ça m'étonnerait pas que j'en ai vu un des.
En France, faut savoir que le premier Macross qui était passé s'appelait Robotech. Et c'était exactement le même principe. Sauf qu'ils avaient appelé ça Robotech.
Ok.
Je sais pas pourquoi, mais le générique était sympa. Enfin bref.
Bah.
Alors. Et, mais c'est des vaisseaux aussi qu'il faut dire, c'est des avions, mais qui se transforment en robots.
En méca, ouais, c'est des mix des deux.
D'accord.
Donc voilà, donc à la base on a donc Hayate Himmelmann, donc c'est un jeune homme de 17 ans, il fait des petits boulots comme ça.
Ok.
Au calme.
Voilà, c'est
pour avoir un peu de sous.
Voilà.
Il enchaîne les CDD quoi.
Voilà.
Et en gros, il y a une poussée du virus sur la planète où il se trouve, et il y a les Valkyres, donc c'est le groupe de musique qui viennent pour combattre ce virus. Et avant ça, il a rencontré Freya Vion, donc. À vrai dire, on sait pas trop à la base ce qu'elle vient faire là, mais elle rêve d'appartenir au groupe de musique. Et lui, il va arriver à la sauver en récupérant un vaisseau d'un mec qui s'est crashé. Ouais. Et en gros, ils vont tous les deux, après, être pris chacun dans leur côté respectif. Elle va être donc chanteuse. Elle va appartenir au groupe.
Chanteuse et pilote, alors, du coup.
Et lui, il va devenir le pilote qui doit la protéger pendant qu'elle chante des attaques extérieures, en fait.
Donc il passe de petit boulot genre livreur de pizza à gérant de mecha. C'est ça.
Après on voit que c'est un génie de base. Au début on le voit, il a un robot genre pour transporter les palettes, mais genre il danse pendant avec son robot tranquillement à l'aise. Le robot qui est fait sans doute pour ça.
Ça fait mal au cœur d'entendre tout ça, ouais. Ok, alors vas-y, parle-nous encore de Macross Delta.
Du coup,
qu'est-ce que toi t'as aimé en fait dans ces animés?
Ce que j'aime bien, à vrai dire, les musiques sont bien à écouter. Après, Il faut pas trop regarder le sens des paroles.
Ah bah oui.
Parce que c'est vraiment cucu la praline.
Souvent, très souvent.
Mais,
ouais.
Genre, violemment. Après, je trouve qu'on retrouve un peu toujours le même principe du héros avec deux filles qui lui tournent autour. Donc il va y avoir une pilote
le
et
triangle amoureux.
Mais ça, par contre, c'est la signature de Macross.
Ah ouais.
C'est-à-dire que dans toutes les séries Macross qu'il y a eu,
il y a le héros.
À ce jour, il a dû en avoir une dizaine. C'est toujours, en fait, c'est obligatoire.
Ouais,
voilà. Il y a toujours le héros, une chanteuse et une pilote, c'est ça?
Non. Ça, par contre,
en général, il y a toujours un triangle amoureux, par contre. Et ça peut même être deux chanteuses.
Ouais, là...
Mais c'est vraiment la signature, donc c'est totalement assumé.
Toujours les triangles amoureux.
Voilà. Donc, bon, même si on pourrait dire que c'est assez répétitif, bah j'ai vu Macross Frontier et Macross Delta. Et bah, après, je peux pas dire par rapport à tous, mais sur les deux que j'ai vus, c'est quand même très différent. Ils arrivent quand même à se renouveler dans l'histoire, même.
Si, en gardant cette base,
même en gardant cette
assez
base
assez particulière, faut le dire.
Oui. Après, ce que j'ai vraiment aimé en fait, c'est les musiques. J'avoue qu'au début, je pensais pas.
Bah, parce que c'est vrai que quand tu regardes, ça fait clairement inspiration. Tu vois des dessins animés qui marchent très bien en ce moment au Japon, c'est-à-dire celui avec tu vois les groupes de filles et tout.
Oui, bah oui.
C'est très commercial quoi.
C'est ça. Oui. Mais
au final, t'aimes bien ce genre.
Bah ouais, franchement les musiques j'ai bien aimé. Après ce qui est cool aussi bah c'est qu'il y a de l'action. Enfin ça se résume pas qu'à ça, il y a tous les combats spatiaux.
C'est pas que des idoles qui chantent.
Alors voilà, c'est ça.
Moi je t'avoue un truc.
C'est le mix des deux.
C'est que depuis la première fois où j'avais regardé à l'époque Robotech et moi j'ai suivi toutes les séries Macross, j'ai toutes vues. Et bah c'est vraiment la méca que je préfère. Le Valkyrie, c'est-à-dire cet avion qui se transforme en robot. Oui. Mais depuis le début, j'ai toujours eu un gros coup de cœur pour ça. Et j'adore en fait les combats parce que t'as vraiment les combats d'avion qui font penser justement à
des combats d'avion.
Voilà, des vrais combats d'avion.
Ouais.
Même si évidemment là, ils sont beaucoup plus. C'est avion manga quoi.
Ouais, ils sont bien malléables.
Mais par contre, après, je veux dire, quand ils se transforment et tout en robot et autres, et j'adore en fait quand ils changent, tu sais, entre. C'est ça donne vraiment
il joue vraiment bien sur les changements de forme, genre du coup pour les freinages et tout ça. Enfin, un avion ça freine pas quoi, mais du coup il change de forme pour
c'est
ce dynamisme en fait enchaîné. Ouais. C'est vraiment
Et tu sais que quand il est en robot, il a une puissance de feu qui est plus importante.
Il est moins dynamique. Alors que l'avion il part, mais
il frappe moins fort.
Voilà. Donc, alors, t'as aimé la musique, t'as aimé
l'action
aussi,
vraiment. Bon, je dirais que le seul point faible, c'est le côté un peu cucu des fois.
Voilà, et ça c'est vrai. Ça, je suis d'accord aussi.
Des fois, c'est un peu, c'est un peu trop niais quoi.
Surtout que j'ai l'impression en fait que plus les séries avancent dans le temps,
plus c'est niais.
Et plus ça commence à devenir niais, ouais. Parce que tu regardes les premières séries, étaient beaucoup, beaucoup plus sérieuses.
D'accord.
Et c'est vrai que maintenant, quand on regarde. La dernière, quand j'avais vu justement le groupe de filles là, qui pilotait. J'ai fait, oh putain, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais bon, après, a priori, ça a plutôt bien marché.
Ouais.
Et après, c'est comme on dit, Macross, c'est vraiment la série par excellence Space Opera. Donc,
Mais franchement, je pense que c'est à voir. Déjà, rien que d'un point de vue culture, parce que ça reste quand même un domaine important de l'animation japonaise. Enfin, je pense que Space Opera, c'est quand même un truc qu'il faut.
Ah oui,
surtout la musique. En fait, même la musique, en fait, globalement,
Il
y en a partout.
Je veux dire, là, du coup, c'est vraiment le mix entre musique et action poussée.
Ouais, la musique, elle est importante dans
en fait.
Ouais, t'as vraiment cet équilibre des deux, en fait, qui vient. Ouais, d'accord, ok, je vois.
Qui vient vraiment, et
je pense que
c'est intéressant dans tous les cas, même si des fois, vous vous direz sans doute que c'est niais. Après, si vous aimez les trucs niais,
je regarde des shoujo, alors, ouais, techniquement...
Du coup, voilà.
Alors, si tu devais lui mettre une note à Macross Delta?
Je dirais 15 pour le côté niais, je baisse un peu, mais les deux autres points, je les trouve vraiment, vraiment sympas. Après, je peux pas comparer les musiques si tu me dis que les autres sont. Enfin, je sais pas.
Alors, en fait, c'est vrai que là, tu prends Macross Delta, les musiques font très très J-pop. Clairement.
Oui, bah, clairement.
Mais c'est vrai que par exemple, vous aviez d'autres séries comme Macross Plus. Où c'était Yoko Kanno, celle qui avait fait les chansons de Cowboy Bebop et tout, et Escaflowne qui avait fait musique. Bon, alors là, mais franchement, mais le thème. Je vous jure, la première fois que j'avais entendu ça, mais ça m'avait fait un truc. La scène d'ouverture avec une chanson composée par Yoko Kanno, où on voit justement les personnages qui s'étaient construits une sorte d'avion fait main là, et on le voit qui s'envole dans le ciel et tout. Ta musique de Kukano derrière, c'est absolument magnifique. En fait, c'est ça le truc, c'est que la musique dans cet animé-là est vraiment, vraiment importante. Là, c'est vrai que ça tend plus vers le commercial, mais bon, en même temps, on va dire que je m'y attendais. Mais par contre, en fait, il faut savoir que les séries Macross aussi sont toutes se suivent au niveau de la chronologie.
D'accord.
C'est vrai que par exemple, dans le tout premier Macross, on avait justement, ça se passait limite à notre époque, et après, on avait l'invasion extraterrestre et autres. Et c'est vrai qu'après, on a eu la période justement où ils partaient dans l'espace pour trouver une planète. Là, du coup, maintenant, eh ben, ils ont carrément conquis l'univers et voilà, ils ont plein de planètes.
Voilà,
Mais ça, en fait, il y a vraiment voilà, une histoire qui se tient. Et moi, j'adore
toujours. En tant que néophyte, je me demande, est-ce qu'on peut regarder des séries plus récentes, par exemple, versions plus récentes pour dire, genre, je vais m'habituer au genre, etc., avec quelque chose de plus fait pour, et puis repartir sur l'ancien.
Tu peux regarder Macross Delta sans aucun problème.
Voilà, hein, et après, revenir en arrière, ça gêne pas.
C'est juste qu'il y a des références, par exemple, à l'origine de certains robots, ou par exemple, les origines extraterrestres. Bah, tu vois, par exemple, tu avais regardé Macross Frontières.
Bah, il y a des références
voilà,
dedans,
c'est ça,
dans Delta.
Exactement.
Mais après,
elles sont pas primordiales, quoi.
Franchement, c'est des références. T'as
tu vois le robot
tout,
qui passe.
T'as 2 minutes au total sur les 26 épisodes, quoi.
Voilà, c'est ça.
Genre, t'as le robot qui passe. Ouh,
non, ou tu vois, genre, tu revois un moment les chanteuses qu'il y avait dans Macross Frontières.
Oui, donc ça gêne pas la compréhension,
voilà,
quoi.
Voilà.
Ok. C'est donc, alors. Bonne série alors.
Ouais.
À voir.
Franchement sympa.
Eh ben,
on
sait
pas.
Allez, ouais, bah, mais c'est vrai, hein, y a plein de séries comme ça.
Ouais,
on dit, ouais, bon, voilà, je vais regarder, mais vraiment vite fait et tout. Et au final, on est pris dedans, quoi.
C'est ça.
Ok, eh ben, allez, on applaudit. Notre cher Miguel. Donc voilà, Macross Delta à découvrir, non licencié en plus.
Profitez-en.
Voilà. Après, c'est vrai que les séries Macross en général, elles sont pas vraiment licenciées en France.
C'est pas le genre qui marche en fait.
Ouais, ça cartonne au Japon. Bah, c'est on va dire après la série Gundam, c'est voilà l'autre série de mecha par excellence. Mais je sais pas, en France, ça passe pas.
Après, je suis sûr que la J-pop, c'est ce qui fonctionne le mieux en France non plus.
Je suis presque sûr que c'est ce qui fonctionne pas le mieux.
Donc, de base, ça complexifie le truc.
Eh bah, écoute, on verra ce que ça va donner plus tard. Bon, en tout cas, voilà, Macross Delta, à voir, à découvrir. Allez, maintenant, ce que je vous propose, c'est de changer d'univers. Un univers totalement injuste, j'ai envie de dire. Totalement dégueulasse. Surtout si on n'est pas arrivé à la fin du jeu, mais qu'on va quand même vous parler du mode histoire en disant ouais c'est de la balle, c'est de la balle.
Voilà, alors, c'est génial. Alors,
bon allez, donc du coup c'est Lorato qui vous fait une exclusivité Tokyo Mekula FM avec le dossier sur le jeu vidéo Injustice.
Voilà,
allez, c'est parti.
Donc après un premier épisode haut en couleur, voilà donc
qui a très bien marché,
qui a très bien marché du jeu Injustice Gods Among Us.
Bonne tentative.
Injustice, des dieux sont parmi nous.
Voilà, très bien, voilà. Très bien.
Pour ceux qui ne comprennent pas, voilà, donc c'est un jeu de combat, donc un jeu de baston en vue côté et tout. Donc comme t'as dit, le premier a très très bien marché. Voilà, ça se passe donc dans une réalité alternative de DC.
D'accord.
Donc en gros dans le 1, est-ce que je résume le 1 ou pas, enfin parce que
rapidement
façon,
ouais rapidement vu que c'est la suite directe ouais, tu peux le dire vite fait.
Bah en gros ouais, dans le 1 bah il y a Superman qui a basculé du côté obscur, enfin il est devenu voilà, donc il est devenu un peu fou par rapport à un événement du coup qui s'est passé dans le 1. Est-ce que je le dis ou pas?
Tu peux le dire, ça arrive dès le début.
Donc, le Joker il a tué sa petite amie au nom
Lois Lane.
Voilà, donc Lois Lane voilà. Donc Superman est devenu fou et a tué le Joker.
D'accord. Voilà. Et ça, en fait, donc, évidemment,
c'est ce qui se passe dans le
en moment. Soi, c'est pas gravissime quand on connaît le Joker,
ouais,
mais en fait, c'est ce qui va en
mais
découler.
Ce qui se passe, c'est que du coup, il n'était pas censé tuer le Joker. Enfin, je veux dire, ses valeurs, c'était pas de tuer les méchants.
C'est ça.
Et du coup, en fait, après que Lois Lane soit morte, en fait, il est devenu complètement fou et il essaie de tuer tout le monde.
Bah, c'est comme, tu vois, le dit Batman. Parce que
c'est
souvent,
la première fois.
Souvent, il dit, enfin, par exemple, il y a des autres Robin qui disent, ouais, mais pourquoi, voilà, tu tues pas juste le Joker et autres. Et même lui, il dit que ce serait hyper facile, voilà, de le tuer. Mais il dit que ce serait impossible
de stopper après,
en fait. C'est que s'il passe la limite, bah, en
l'occurrence,
c'est ce qui va arriver à Superman.
Et là, du coup, c'est Superman qui a passé la limite et du coup, il a décidé qu'il n'y avait plus d'espoir pour les super vilains et qu'il fallait tous les éliminer.
D'accord.
Donc, son but maintenant à Superman, c'est d'éliminer tous les vilains. Et du coup, Batman va s'opposer à lui en bon super-héros classique.
En bon Batman.
En bon Batman, voilà. Et donc, on va suivre en fait les aventures de tous les héros de DC, voir de quel côté ils sont, voir pourquoi ils sont de ce côté-là. Et voilà, donc c'est des bonnes bastons, enfin, des trucs comme ça.
Et c'est un truc de ouf. Moi, j'adore quand les super-héros ils se battent entre eux. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus important. Enfin, ce qui est le plus intéressant, un peu comme dans Marvel avec la saga
des Civil Wars.
En fait, c'est là où on se pose le plus de questions, parce que c'est vrai que les deux camps, en fait, il y a du pour et du contre, quoi.
Ouais, techniquement, voilà, c'est des camps de gentils qui s'affrontent, donc c'est deux visions
du
bien.
Tu vois, en plus, c'est super cool parce que tu t'en apprends un petit peu plus sur tous les personnages. Enfin, tu vois que, enfin, tu sais, ils ont vraiment tous vraiment leurs raisons. Il y en a pas un qui fait bon, bah, moi je suis méchant, alors du coup je vais aller tabasser des mâles.
Chaque super-héros va expliquer pourquoi justement il prend tel parti, quoi.
Voilà, c'est ça. Et ça, c'est vrai que c'est un thème vachement récurrent de tous les trucs, de tous les comics, tous les DC, tous les...
Ouais, la place du bien, du mal.
C'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment trop de bien et de mal. Il y en a qui font un petit peu de bien, il y en a qui font un petit peu de mal, il y en a qui font des trucs très mal et puis très bien. Et puis du coup, tu sais pas trop s'ils sont méchants ou gentils.
Voilà.
Et ça, c'est cool. Du coup,
d'accord.
Voilà. Donc,
alors ça, c'est l'histoire de base.
Voilà, donc l'histoire de base. Donc là, on continue ça. Dans les plus, je dirais que c'est un bon jeu de baston. Je veux dire, c'est des bons personnages qui sont bien équilibrés. Je veux dire, quand j'y ai joué, c'était assez cool. Après, au niveau de l'IA, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire, sachant que on a commencé le mode histoire, et en fait, ce qui se passe, c'est que une fois, tu te fais défoncer, et puis la fois d'après, quand tu recommences, tu le détruis, et genre, tu fais presque un perfect. Et c'est trop bizarre, en fait. Donc, mais en fait, je pense pas qu'il baisse les capacités de l'IA si tu perds, parce qu'en fait, des fois, tu peux ne pas réussir pendant 2-3 fois, et la fois d'après, vraiment les éclater, quoi.
D'accord, ok.
Et du coup, ça, c'est assez bizarre, donc je sais pas trop pourquoi ça fait ça.
Ok.
Du coup, voilà. Après, au niveau du scénario, comme je l'ai dit, j'ai pas fini l'histoire encore, mais j'ai plusieurs personnes autour de moi qui l'ont fini, et apparemment, c'est vraiment sympa.
Moi qui l'ai fini très récemment, c'est vrai que Le mode histoire, de toute façon, c'est vraiment une marque de fabrique de ce studio, parce qu'il faut rappeler que c'est ceux qui ont fait aussi Mortal Kombat, et que c'est le seul studio à vraiment te donner un mode histoire dans un jeu de baston qui a vraiment du contenu. Chose qui est, tu dis que c'est
Street
limite
Fighter.
À la base, c'est normal, quoi. Tu dis que ça devrait être logique, or c'est rare
faire ça, quoi. Et ça, c'est super triste, parce que c'est vrai que c'est cool de savoir pourquoi est-ce qu'ils se bastonnent, quoi. Enfin, pas juste qu'ils se tapent sur la gueule comme ça.
Vous avez quand même 2h30, hein, ils avaient dit 2h30 de cinématique dans le jeu, donc pour prouver à quel point vous avez une bonne histoire. Par contre, alors j'avoue que là, en fait, le truc dans cette histoire, ils vont affronter un méchant qui s'appelle Brainiac, qui est un méchant qui a été créé
dans les années 70.
Voilà, et donc du coup, c'est un personnage tout ce qui est plus classique, hein, il va envahir la Terre et autres, quoi.
Je suis méchant.
Ouais, c'est ça. Donc en fait, cette partie-là, ok, on la prend, mais vraiment la partie la plus intéressante, c'est vraiment le moment où ils vont se battre les uns contre les autres, quoi.
C'est les visions du bien, en fait.
Ah, mais c'est ça. Complètement, quoi. Et c'est hyper intéressant. Et
au final, c'est pas plus mal que justement le méchant, il soit un peu bateau, parce que genre, il est pas important dans l'histoire. C'est genre, comment tu le combats, quoi.
C'est ça. Et après, en plus, justement, on a des nouveaux personnages. Tu te rappelles justement quel nouveau perso il y a dans cette version?
Alors dans cette version, je sais plus exactement. Non.
Il y a la fille de la même famille que Superman.
Ouais, il y a Supergirl, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est vrai qu'ils introduisent ce personnage et ouais, je m'en rappelle. Et c'est vrai que en plus elle est intéressante.
Hein.
Ouais, non, c'est franchement voilà.
Sinon il y a
il y a des surprises, mais il y a des surprises niveau scénaristique aussi. Par exemple, il y a des personnages on sait pas trop où. Enfin. Moi, quand j'entends ça, par exemple, je me dis tous les alliés du Joker, ils vont où en fait? Ils font quoi maintenant? Il y a plus le Joker, ils font quoi? Notamment Harley Quinn. Et en fait, comment elle évolue, c'est assez
d'ailleurs,
surprenant
c'est vrai
en fait.
Que, ouais, c'est assez cool.
Ouais, moi j'ai trouvé ça assez cool, la façon dont elle réfléchit, etc. Du coup, en fait, on voit vraiment la psychologie du personnage et tout, et c'est vraiment cool.
Et après, c'est vrai qu'au niveau des nouveaux personnages, il y en a surtout au niveau des méchants. On a Captain Cold. On a le gros gorille, là je me rappelle plus comment il s'appelle.
Gros gorille.
Le chef de Gorilla City, le truc hyper original.
Je sais pas s'il est nouveau. Celui qui a un nom abominable avec son vieux chat dégueulasse.
Non, il est nouveau lui. C'est
Atrocitus.
Red Lanterne.
Atrocitus.
Mourir de rire, c'est genre Atrocitus. Ouais.
On a un monstre des marais aussi qui est pas méchant mais qui est pas gentil non plus.
Voilà, c'est le monstre.
Faut pas le faire chier dans ses marais quoi.
Pour lui en fait, c'est juste il veut protéger ses marais, c'est tout.
Et on a aussi des nouveaux, enfin des jeunes héros. On a Firestorm. Et Blue Beetle qui sont là aussi et qui sont plutôt forts.
Je adore Blue Beetle.
D'accord, ok.
Ouais, voilà. Bah, du coup, justement, au niveau des héros, on en a quand même pas mal, comme on vient de le voir. Donc, il y a 28 héros et 7 versions alternatives.
D'accord.
Du coup, voilà. Bon PVP, je veux dire, c'est un bon truc de. Enfin, si tu veux te bastonner avec tes potes et tout, c'est marrant, tu vois.
Autre truc qui est bien aussi, c'est l'interactivité avec le décor.
Ouais.
Et ça, je trouve
ouais,
que
ouais, c'est cool. Super simple.
Les jeux de baston, ils recommencent à, enfin, ils commencent vraiment à bien jouer là-dessus.
Mais c'est vraiment celui-là hein, qui a, c'est ce studio
ouais,
qui a vraiment,
celui-là qui a vraiment débuté ça. Et bah ouais, ils continuent là-dessus. Et c'est vrai que bon.
Le crocodile.
C'est vraiment sympa. Des fois, ouais, tu peux. Oui.
Ouais.
Le crocodile, ouais, notamment. Normal. Il parle d'un truc. C'est un moment. C'est dans les marais.
Ouais, ouais.
Il y a un crocodile qui est attaché à une corde. En fait, tu peux choper le crocodile et le balancer sur l'autre.
Voilà. Et il y a des moments aussi où tu joues juste et tu rebondis sur le décor.
C'est ça. Des fois, tu rebondis. Okay. Sur le décor, mais du coup ça te permet de faire des attaques sautées et c'est plutôt pas mal.
D'accord.
Donc, voilà.
Okay.
Et après un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est des unlockables sur les héros. Donc c'est des trucs ouais que tu des récompenses que tu peux débloquer donc en faisant le mode histoire, en faisant les combats comme ça juste comme ça. Et il y a vraiment une évolution des personnages donc du coup enfin ça donne vraiment un côté RPG que moi j'aime bien.
Ah oui, après, c'est vrai qu'il y a aussi les
costumes. Tu peux améliorer ton personnage.
Voilà, tu peux changer les costumes, tu peux voilà et ça je trouve ça sympa.
D'accord.
Et après au niveau des moins apparemment d'après ce que j'ai vu moi je l'ai toujours pas fini mais la combat de solo d'après ce qu'on m'a dit elle est un peu courte quand même.
Bah,
c'est de l'ordre de 5-6 heures.
Ouais mais c'est ça le truc c'est que ça peut paraître court
de 4 à 6
si tu compares
heures,
à d'autres jeux
mais c'est pas un Witcher quoi.
Ouais, pour un jeu de baston c'est énorme.
Ouais,
c'est vraiment
oui, oui clairement.
Ouais, coup, ça... voilà. Et aussi un autre moins éviter de jouer avec Stéphane parce que le spam c'est vraiment trop chiant avec ce jeu.
Je confirme, c'est comme ça que j'ai battu beaucoup de personnages.
Il y a certains personnages, c'est insupportable franchement. Ouais, non mais quand t'en as un avec une mine et sa mine, mais c'est
ah
le
oui.
cancer. C'est le cancer cette
cancer.
Mine là. J'ai joué avec
Absolument.
Bilal la dernière fois et il arrêtait pas d'envoyer cette mine et j'étais là arrête, c'est trop chiant.
Et il prenait plaisir à le faire.
Ah bah,
c'était
totalement.
Insupportable. Enfin bref, voilà. Mais sinon, ouais, c'est franchement un
d'accord.
bon jeu. Moi, j'ai bien aimé.
Alors, si tu devais lui mettre une note ?
Eh ben, je lui mettrais une note, une bonne note, dans les alentours de 18, ouais.
D'accord, ok.
Ah,
bah, totalement
oui.
mérité.
17-18, ouais.
Ils ont mis 18 au niveau de...
Bah, je crois qu'il a 17 sur jeuxvideo.fr.
Il a eu de très bonnes notes internationales.
Il a eu de bonnes notes, ouais.
Ok. Eh ben, allez, on applaudit le radio, là. Alors, moi, j'ai une question pour Ace. Est-ce qu'il y a... la version portable qui est déjà sortie de Injustice 2 parce que je sais qu'il la sorte et toi t'as joué à la version portable de Injustice 1
bah, en fait je sais pas vraiment s'ils refont une application mais je sais que genre les personnages de Superman de Injustice 2 et Batman de Injustice 2 ils étaient sortis déjà il y a presque un an en fait.
D'accord, ok. Là, donc, il me semble qu'ils sortent la version portable parce que j'ai vu que dans les menus
mais
bah, à un moment ils disaient que tu pouvais jouer
mais ils les remettent pas dans Injustice 1. Il garde peut-être parce que enfin je trouve ça bizarre qu'il rajoute.
Bah à tester.
Qu'il rajoute.
De toute façon tu testes et tu nous tiendras au courant. Après dans les mois il y a un autre truc aussi mais bon ça c'est comme tous les jeux de baston, c'est qu'il y a les fameux DLC. Les DLC qui arrivent, ils en annoncent 9 par rapport à Injustice 2, notamment avec des personnages comme Red Hood qui est un des anciens Robin qui est hyper classe pour ceux qui lisent la BD. Donc voilà, il sera en DLC, c'est toujours un peu chiant, mais bon, on va dire qu'à la rigueur, il se rattrape en fournissant quand même beaucoup de personnages
de base ouais.
Voilà. Et on va dire que là, c'est vraiment un petit plus.
C'est
quoi.
Pas un Street Fighter. Ouais. Clairement, comparé avec ce qu'il y a de sa génération, Street Fighter 5,
c'est tellement la référence.
J'avais regardé avec Street Fighter, parce que c'est vrai que Street Fighter, ces derniers temps, il y avait quand même eu pas mal de personnages DLC.
Oui,
je me suis dit, ouais. Ça fait depuis longtemps, je vais voir combien il y en a au final. Hein. Au final, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je crois qu'il doit en être à 22 ou 23,
ouais.
Ce qui est totalement ridicule par rapport à des jeux
à
comme
50,
comme justement,
même le 4, il y en a genre 50 dedans des personnages.
Mais il y en avait combien de bases déjà
dans le 4 ou dans
Street
Fighter
7 ou 8
16.
Ah ouais,
dans le
ouais. Ah, je
ah, mais 16,
beaucoup moins, hein.
16 c'est rien pour un jeu de baston.
Ouais, mais je croyais même encore
sachant
moins.
Sachant que dans les 16, t'as un
Ken
et Ryu déjà qui se ressent
ouais,
pas
vrai.
Mal, donc voilà
ouais.
Quoi. Enfin bref, on va
c'est
pas relancer.
Ken, Evil Ryu.
On va pas parler du Street Fighter, mais en tout cas, moi, comme je l'ai dit, j'adore cette société parce que pour moi, au niveau des jeux de baston, c'est la société qui fournit le plus de travail.
Ouais, et il est beau
ouais.
En plus.
C'est-à-dire que la plupart des jeux de baston, je trouve qu'ils à chaque fois se reposent voilà, sur les anciens jeux. Capcom et Street Fighter, c'est l'exemple typique. Mais là, celui-là, à chaque fois, ils essayent de se renouveler, d'apporter des nouvelles choses. Ils rajoutent plein de détails pour les fans, du contenu énorme. Et c'est ça, en fait, qui fait un bon jeu. Et je trouve que maintenant, le monde du jeu vidéo s'est tellement développé qu'il y a une certaine exigence. Et c'est ça, vraiment, les détails qui vont faire la différence. Quoi. Maintenant,
voilà,
ce studio est devenu une référence.
Ah, mais la qualité d'un jeu, elle se mesure plus forcément qu'à ses graphismes ou qu'à son histoire. En fait, il faut vraiment un tout. Quoi. Enfin, il faut vraiment un poids fort et monter.
Ah bah oui, bah, rien qu'à voir. De toute façon... Et on en revient à Street Fighter, mais ça c'est exemple ouais. type qui s'est fait défoncer par la critique lorsqu'il est sorti en disant que c'était un jeu qui était clairement pas fini. Et c'est
ouais.
vrai que quand tu regardes par rapport à Mortal Kombat XL qui était sorti la même année. Mais alors là, t'avais pas photo, quoi. Pas t'avais un jeu qui était énormissime, et d'un autre côté, t'avais un jeu qui faisait le quart du Mortal Kombat au niveau du contenu, quoi. Enfin bon, en tout cas, Injustice 2 a joué absolument. On n'oublie pas la note de Lorato, 18 sur 20.
Mm-hmm. 18 wow. Incroyable.
On dirait les mecs là qui parlent dans les émissions où ils vendent des.
Les téléachats.
Voilà, les téléachats là. Où ils disent,
seulement.
Oh, voilà, vous rendez compte aujourd'hui, 30% exceptionnellement, quoi. Bah, c'est pareil.
Parce que c'est tous les jours, 20, mais.
Bien sûr. 30% un jour et après, ce sera 35. Hein,
voilà,
suite,
c'est
quoi.
Ça.
Enfin bref, donc voilà, Injustice 2 à voir absolument. Et n'oubliez pas qu'on a quand même Tekken 6, 7, ouais, qui arrive aussi très bientôt. Et celui-là aussi, il va envoyer du lourd.
En juin, ouais.
Voilà.
Enfin.
Très 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 bientôt. On vous en va voir. Et pour Ace, Bob qui est bien là, hein, il sera bien présent, quoi. Ouais. Toujours pareil, toujours le même. Un sacré déconneur, j'ai envie de dire. Bon, allez, vous êtes toujours sur Couleur FM pour l'émission Tokyume. Maintenant, on va vous parler un peu de culture avec Chamallow qui va vous dire. Alors. J'allais dire ce qu'il faut faire, mais c'est aussi peut-être ce qu'il ne faut pas faire quand vous êtes au Japon.
À vous de choisir.
Voilà. Parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas tous assurés de la même manière quand on est au Japon. Et que tout ce qui est intoxication alimentaire et autres, ça peut être mortel.
Assurez-vous d'avoir les bonnes choses. Ouais, voilà, c'est ça.
Allez, c'est parti pour le dossier de Chamallow.
Alors, c'est parti, je vais vous parler des plats absolument insolites et complètement folles dingo que vous pourrez trouver au Japon. Donc, c'est vraiment des trucs parfaits pour les touristes ou pour ceux qui ont tout simplement le goût du risque. Alors, nous allons commencer tout simplement par le fugu. C'est un des plats
fameux classique. Fugu,
ouais. C'est un plat qui reflète bien le reste du dossier. Donc, il s'agit du fameux poisson qui, mal préparé, pourrait vous tuer de paralysie. Donc, c'est vraiment un truc assez, avec lequel il faut pas plaisanter. Alors, le poisson en soi, c'est le fameux poisson globe, donc celui qu'on voit dans Nemo par exemple, c'est le poisson qui gonfle quand il se sent menacé. C'est le poisson qu'on peut appeler le tétrodon. Donc du coup, ce poisson contient un poison qui s'appelle la tétrodotoxine, qui peut littéralement vous paralyser en 10 minutes et vous tuer en 30 minutes. Donc si aucun soin n'est donné. D'ailleurs, aucun antidote n'est connu. Quand c'est trop tard, c'est trop tard. Voilà, tout simplement. Le poison est présent dans les gonades et dans le foie, et il est libéré lorsqu'il se sent menacé. Par exemple, quand il est dans l'eau, il peut libérer une faible quantité de poison pour repousser les prédateurs. Et il se trouve aussi que les dauphins utilisent ce poison pour se droguer. C'est super cool. Ils font une partie de
volley-ball. Les dauphins, ils shootent, tu vois.
Ah, ouais, mais c'est
exactement ça en plus.
Complètement dégueu. Ils font une partie de volley-ball avec le poisson. Et après, ils remontent à la surface pour se laisser flotter sur le dos. C'est vraiment hallucinant.
pour se laisser flotter sur le dos, c'est. C'est vraiment genre les camés comme chez nous.
Exactement. Ils font un bad trip, quoi. Vraiment.
Ils sont dans un van, tu sais, ils roulent comme ça et ils se posent.
Ouais, c'est ça, ils se posent sur l'herbe.
D'accord, ok.
Enfin bon, voilà, ça c'est le poisson en général. Et du coup, il est servi dans les restaurants au Japon. Pour le servir, il faut un diplôme. Bon, après, il est dit que n'importe quel maître sushi pourrait être capable de dépecer un poisson sans percer le foie ni les gonades. Mais bon, voilà, pour réglementer ça, il faut quand même un petit diplôme sympa. D'ailleurs, le concours pour obtenir son diplôme de préparation du fugu, c'est tout simplement de le présenter à un jury et de le goûter devant le jury. Si jamais tu meurs, c'est pas ton diplôme. Et t'es la honte de ta famille. Ouais. Et voilà, donc ça c'est le genre de poisson qui coûte très très cher au Japon. C'est ceux qui l'achètent en général, ceux qui le consomment, c'est ceux tout simplement qui veulent vraiment ce côté du risque et puis se présenter sous forme de sashimi par exemple ou même sous toutes ses formes. Hein. Il y a des fritures de fugu, des sashimi de fugu.
Ah, sachant que c'est ton dernier repas, ouais.
Voilà, c'est ça.
T'as à profiter quoi.
Donc t'as intérêt à le payer très cher aussi.
Ok. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ?
Alors place suivante, nous allons voir le sanagi. Donc le sanagi est un poulpe qui est mort. Mais qui bouge encore. Donc il est servi sur l'assiette en étant mort. Et lorsque l'on verse de la sauce soja dessus, une réaction chimique lui fait bouger ses articulations.
En fait c'est même pas une réaction chimique, c'est genre le sel qui vient perturber les muscles. Et du coup ça bouge dans tous les sens. On peut faire pareil avec des grenouilles par exemple.
Voilà, c'est ça. Et c'est le même délire. Ça fait bouger automatiquement le poulpe pendant quelques secondes. Et puis du coup il est tué juste avant le service. Il est sorti de l'aquarium, tué puis servi. Bon du coup un petit conseil, n'oubliez pas de bien mâcher pour éviter de vous étrangler. Parce que c'est dans le genre risqué, c'est pas
il
mal.
Il te chope la glotte, tu vois.
Mais si ça accroche dans ta gorge.
Il t'emporte avec toi, voilà, ouais. Comme ça. Alors du coup, place suivante, nous allons voir le natto, donc le fameux.
Ah. Ça aussi c'est connu.
Alors ça c'est vraiment un truc
abominable. Bon,
voilà,
ça je veux y goûter. Ça je veux totalement y goûter.
Ah ouais, moi aussi j'aimerais trop tenter. Alors déjà c'est un plat qui est très réputé pour son odeur qui est très forte et très repoussante. Il s'agit de soja fermenté qui pue et c'est très gluant aussi, donc ça a une texture vraiment très
gluant.
En fait, voilà. quand on regarde, on dirait un peu, je trouve, du fromage râpé, genre si, ouais. comme si on avait fait
limite,
fondu,
ouais, du fromage
de l'emmental.
C'est exactement ça, ça fait des filaments et tout.
Ça ressemble, en fait, genre... mais ça n'a pas la même odeur déjà. Apparemment.
Ça n'a pas le même goût, ouais. surtout, j'imagine.
Et du coup, bah voilà, les vieux mangent ça au petit déjeuner. Bon, bah,
parce
c'est,
que
c'est...
comment mieux commencer la journée.
Voilà, c'est une bonne tradition pour réveiller. Mais bon, après, pourquoi pas, hein, les Australiens, ils ont bien un truc dégueulasse qui s'appelle le veggie meat et... Et puis les Suisses, on le sait, novices, bon bah voilà, c'est presque pareil. Et donc du coup, c'est tellement, tellement connu et puis tellement, bah, disons, repoussant que même dans Gintama, par exemple, et bah, il y a une référence au natto avec une des ninjas qui se bat avec carrément du natto. Quoi. Elle trempe ses doigts dedans et puis elle frappe les gens et ils font là, ah, ça pue, au secours. Et voilà, ils courent partout. Donc voilà, ça c'est le natto, c'est quelque chose qui pourrait être attesté également. Place suivante, nous allons voir donc du coup le chankonabe, donc qui est le plat qui est servi au sumo. C'est ce qu'ils mangent tous les jours. C'est un plat extrêmement calorique qu'ils mangent exprès pour gagner du poids.
Ah, c'est le truc que tu voulais essayer.
Voilà, ouais. c'est le truc que je voudrais essayer à partager de préférence.
Ouais, peut-être.
Je sais pas si je mangerais tout d'un coup. Donc oui, carrément.
Sans donner bonne conscience.
Seulement 6000 calories.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est entre justement 2000 et puis 4000 calories par plat.
Oh, putain.
Donc ce qui est vraiment vraiment énorme. Hein, c'est sachant que nous bah en tant enfin un homme en général
bien nous en tant qu'être humain
en tant qu'être humain
sachant que les Japonais sont aussi des êtres humains donc
un homme a besoin de 2100 calories par jour pour fonctionner normalement quoi donc du coup voilà nous je rappelle c'est 2000 à 4000 enfin je veux dire non pour la soupe de...
Okay.
Et donc du coup dans le chankonabe bah, il s'agit tout simplement d'une soupe dans laquelle on met vraiment tout ce qui nous passe à portée de main de frit et puis du coup bah voilà on prend du chien frit, du cheval frit, du porc frit, on met tout dedans et ça nous fait un chankonabe génial.
Ouais, d'accord.
Et
wow.
du coup bah voilà, faut savoir que les sumo ils en mangent deux par jour et puis ils mangent ça pendant des années quoi.
Ouais. Non mais j'imagine bien la taille du plat
pour avoir un corps comme ça.
C'est bah oui, un corps de rêve, le corps d'été, tu vois, c'est normal.
Pour le bikini.
En plus, c'est vrai.
C'est pas des bikinis, hein. Peu importe ce qu'ils portent, ça devient
ouais,
un bikini.
C'est des foules.
Ah
de
non, c'est tout sauf un bikini.
Alors, ça c'est le troisième. Quatrième.
Ouais. Bah c'était le quatrième du coup.
Ah, c'est, excuse-moi, quatrième.
Alors, du coup, on va pouvoir regarder le plat suivant, alors qui s'appelle le okonomiyaki. Alors, l'okonomiyaki est tout simplement une espèce d'omelette de fond
ça
de frigo.
Va, hein,
voilà, c'est pas un truc, c'est pas le truc le pire qu'on puisse trouver.
Mais c'est super bon.
Et bah, c'est bon quand c'est bien préparé, dis donc. Mais voilà, c'est une omelette avec dans lequel on peut mettre vraiment un peu de tout. On peut mettre du chou, des pâtes. Souvent, on peut mettre aussi du lard sous forme de bacon, du coup, des germes de soja. Et puis, on peut mettre. Alors, j'ai un truc là. Je sais pas si... Ah oui, bon, on peut mettre aussi du poisson séché
oui.
râpé.
Ouais, c'est un peu tu vois le petit truc que tu mets par-dessus et tout.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est
voilà,
vraiment
un peu comme si tu mettais des oignons
ouais, d'accord.
Des oignons frits ou des choses comme ça.
T'as déjà essayé d'en faire de ça ou pas?
Non, alors les okonomiyaki. On a essayé oui, on a essayé déjà et ça a fait un fiasco parce qu'on avait pas tout ce qu'il fallait.
Mais ça par contre, franchement si vous arrivez à le faire, c'est le top du top. Ah, après, ça ouais. demande un certain matériel aussi, bah, les ingrédients.
Ouais, c'est ça en fait. C'est surtout trouver les ingrédients, certains ingrédients qui sont un peu chers.
Mais on y arrivera. On y arrivera.
Bah,
un jour.
Oui,
espérons,
hein,
parce que moi, ça me tenterait bien de goûter.
Bah, je le ferai un jour.
Et du coup, le tout est bien recouvert d'une petite sauce mayonnaise un petit peu vinaigrée.
Oui, c'est ça.
C'est la mayonnaise japonaise.
Ouais, c'est ça.
C'est ça en fait le plus dur à trouver.
Il y en avait un autre ou pas alors du coup on arrive où c'était le dernier.
En dernier plat, alors du coup, oui, je voulais juste parler des Kit Kat, de tous les goûts qu'on pouvait trouver. Par exemple, dans les plus fous qu'on ait trouvé, c'était les wasabi, cacahuètes, bon d'accord, au beurre. Popcorn, sakura, pourquoi pas.
Le plus choquant que j'ai vu, c'est champagne chocolat blanc.
Champagne chocolat blanc, parce qu'il faut savoir en fait que le Kit Kat c'est une friandise très populaire au Japon parce que ça se rapproche de l'expression Kitukatsu qui veut dire celui qui réussit en fait. Donc du coup, manger des Kit Kat, ça serait synonyme de bonheur et c'est un bel argument marketing.
C'est le gâteau numéro 1 avec le Puka.
Voilà.
Là-bas.
D'accord.
C'est les Kit Kat ou les Mikado?
Kit Kat.
Non, c'est les
Kit Kat et les Mikado. Les Mikado, c'est les Puka justement.
Ouais, ok.
C'est ça.
Les Puka.
Qu'ils appellent pas du tout Mikado.
Ouais, du coup.
Je comprends pas parce que Mikado, ça fait justement japonais quoi.
Ouais, ils se sont dit, oh non, ça fait trop japonais.
On va
changer.
Après, il y a un plat que t'avais pas dit et qui est sur le sondage le truc le plus dégueulasse. C'est le spermatozoïde de poisson.
Ah oui, en effet, je suis tombé dessus.
Ah, mais alors ça, par contre.
Mais c'est peut-être trop hardcore,
mais ça,
tu vois.
Ah, franchement,
voilà, c'est ça, je me suis dit, je
vais censurer. De tous les trucs qu'ils ont mis, hein. Ah, pour moi, c'est l'air vraiment d'être le truc le plus abominable,
ouais,
quoi.
Il y a plein de trucs qui sont
de poisson.
Et surtout que pour l'instant, j'ai pas vu une personne, autant le fougou. Il y en a qui disaient que voilà, c'était bon. Mais alors ça, il y a pas une seule personne qui a goûté qui a dit ouais, franchement.
Tu sais quoi, à l'occasion.
Oh,
à l'occasion, on goûtera.
Alors, franchement, fais-le. Mais moi, je peux pas.
Ah, bah, ouais, grave.
Moi, je le goûte et je le mets sur le CV.
Eh bah, avec Aro, c'est parti.
Bon courage. Ok.
Il est pas très ramlaché.
Du coup, c'est tout bon.
Et voilà, c'est tout pour les plats japonais à tester, sympathiques ou moins sympathiques à tester.
Bon appétit.
Bon appétit. Allez, on l'appelle très fort. Donc voilà, c'était le dossier de Chamallow, Total Civilité sur Couleur FM pour l'émission Tokiume. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit dossier manga. Alors, manga d'actualité, qui s'appelle Fire Force. Alors, ça sort chez l'éditeur Kana. C'est tout nouveau, ça vient tout juste de sortir. Et je vais vous mettre tout de suite dans l'histoire. C'est un truc certain parmi la famille Tokiume pourrait se reconnaître parce que c'est une histoire de pompiers. Oui.
J'allais te le demander.
Non, justement.
Quand on dit pompier, après c'est pompier. Voilà, c'est genre pompier manga quoi.
Oui.
Alors.
Genre ils ont des échelles de ouf.
Mais peut-être. Putain, dans le manga. Hein. Je vous explique. C'est alors déjà rien que l'auteur, ça va vous donner le ton. C'est Atsushi Kubo à qui on doit Souliter.
Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Moi j'aurais bien vu, tu vois, genre le camion Gundam.
Peut-être pour plus tard. Donc du coup, si vous dire que c'est un univers vraiment qui ressemble un peu à Souliter, hein. Ça pourrait être limite dans le même manga. En fait, dans ce manga, on apprend que il y a un phénomène qui, une vraie plaie par rapport à la société qui arrive beaucoup, c'est les combustions
spontanées.
C'est-à-dire que voilà, les gens se mettent à cramer comme ça d'un coup. On sait pas pourquoi. On sait juste que du coup, il y a un peu de sorcellerie et tout dedans parce que c'est un monde quand même où il y a un peu de magie. Et donc en fait, du coup, il y a des victimes de ces incendies-là qui ont survécu et qui sont devenus en fait, justement des pompiers entre guillemets, dans le sens où ils ont réussi à engendrer une sorte de capacité par rapport au feu. C'est-à-dire que par exemple, il y en a certains qui vont réussir à le manipuler, d'autres qui vont carrément avoir une partie de leur corps qui peut devenir des flammes. Et ça, c'est la base de l'histoire. Et donc, du coup, on a notre héros qui s'appelle Shinra. Et c'est un garçon qui doit avoir 12-13 ans qui arrive dans la capitale. On apprend que son but, c'est de devenir un héros. Je vous dis, c'est pas vraiment du spoil, mais c'est tout simplement parce que voilà, il y a sa mère, évidemment, le truc classique, qui est morte.
Est-ce qu'elle avait la nappe sur le côté ou pas?
Non.
La coiffure typique.
Et donc, du coup, elle avait dit, qu'il fallait qu'il devienne un héros, donc shonen
du
classique.
Coup, il va devenir un héros.
Mmh. Et voilà comment ça va se passer. Il intègre une escouade de pompiers, le 8e escadron. Et en fait, dedans, voilà, vous avez le capitaine qui, lui, est le seul vrai pompier. C'est-à-dire, comme nous, on le connaît. Et tous les autres, en fait, sont des pompiers qui ont des pouvoirs. Alors, au niveau de l'histoire, évidemment, là, c'est le premier volume. Donc, ça instaure vraiment les bases. Et c'est vrai que quand on le lit, on a vraiment l'impression de lire limite une suite à Souliter, quoi. C'est-à-dire, le héros, mis à part la coupe, il a la même gueule que Saul.
Ouais.
Vous avez des petits esprits de flamme. On dirait les esprits, vous voyez, les âmes qu'ils attrapent dans le manga de Souliter. Vous avez en plus du fanservice. Très mal dosé de ce que j'ai pu voir en lisant le premier volume. Et après, au niveau du dessin, c'est vrai que moi, le manga de Souliter, c'est jamais celui que j'ai préféré au niveau du dessin. J'ai toujours trouvé que l'histoire était bien, mais après, au niveau du design, même si il y a des très bonnes idées dedans, surtout au niveau de certains personnages, c'est pas celui que je préfère. Mais bon, là, on a quand même un auteur qui est au sommet de son art, si je puis dire. Au niveau des. Du bon côté, c'est que c'est un shonen plutôt sympathique. C'est-à-dire que il y a tout ce qu'il faut pour que le shonen soit efficace. C'est-à-dire le héros lambda qui a une raison pour devenir un héros et qui a une particularité, c'est-à-dire de pouvoir contrôler les flammes. On a l'équipe avec justement plusieurs personnages dans lesquels on va pouvoir s'identifier, qui ont tous des caractères différents. Par contre, alors c'est là en fait, c'est que c'est le point positif et en même temps le point négatif, c'est que c'est ultra classique. C'est-à-dire que quand on le lit, on a l'impression d'en avoir lu 20 000 des comme ça.
Ouais.
Alors, évidemment, comme je le répète, c'est le premier volume. C'est rare que des shonen, dès le premier volume, ils envoient du lourd. Mais c'est vrai que quand, par exemple, le dernier gros shonen qui était sorti, c'est My Hero Academia.
Oui, alors.
C'est très, très difficile de lire, par exemple, celui-là, juste après avec un My Hero Academia qui envoie du lourd dès le début. Et c'est vrai que voilà, on a l'impression que Fire Force est un bon manga, mais on a l'impression qu'on a envie de dire sans plus, quoi. C'est-à-dire que voilà, on va le lire, on va voir comment ça va se développer, surtout pour ceux qui ont adoré Souliter.
Avec la thématique aussi.
Ah oui,
la thématique par contre, c'est original.
En fait, le truc c'est que c'est original,
mais c'est traité de façon classique, quoi.
Mais on a l'impression que c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que voilà, on s'est dit ouais, qu'est-ce qu'on pourrait mettre voilà pour changer. Et ben allez voilà, les pompiers, tiens, c'est parti. Tout comme par exemple, on pourrait sortir un autre manga sur
les plombiers.
Voilà, ouais, mais comme tu dis, les éboueurs ou genre tu vois, c'est genre les poubelles magiques, les déchets, ils sont devenus des déchets.
Je l'imagine bien le shonen en plus, tu vois.
Et tu vois là, t'as les éboueurs badass et tout qui arrivent, tout ça. Parce que là, c'est pareil. Là, ils ont tout l'équipement du pompier classique. Donc en fait, ça peut être intéressant. Tout comme ça peut être très ridicule. Ouais. Donc, moi, ma note, je lui donne, allez, un 14 sur 20. Mais bon, c'est vraiment parce que c'est le premier volume.
On attend de faire cette preuve, quoi.
On lui donne les encouragements.
Voilà, c'est ça. Quand on lit un premier volume, c'est très difficile de donner un avis sur le manga. Je sais que c'est un manga qui marche très bien au Japon, qui faisait partie des mangas que les éditeurs, enfin, que les fans français attendaient énormément au niveau de la sortie en France. Je suis content aussi pour l'éditeur Kana parce que là, il faut savoir qu'ils ont quand même Naruto qui s'est terminé. Et mis à part Boruto qui sort très lentement, ça me fait plaisir qu'ils aient une nouvelle bombe shonen, entre guillemets. Mais c'est vrai que quand on le compare à la concurrence, pour l'instant, il peut paraître un peu fade. Donc j'attends vraiment de voir ce qu'il va donner sur le long terme.
En espérant que ça fasse un solitaire, quoi. Voilà. Au niveau qualité.
Et il y a un autre truc aussi, c'est juste un petit détail. Mais par exemple, tu as un personnage qui a une épée de feu qu'il appelle Excalibur. Et en fait, c'est le petit truc chiant parce que dans Soul Eater, Excalibur était vraiment le personnage. Mais alors, j'étais plié de rire à chaque fois que je le voyais arriver. Ah ouais. Et là, en fait, j'étais un peu déçu parce que là, tu vois l'Excalibur, mais c'est une épée. Enfin, bref, c'est rien quoi.
Ah, mais ils ont pas remis le même.
Non, c'est rien.
C'était magnifique.
Ah, c'est juste genre un peu comme dans Rave et Fairy Tail, tu trouves.
Alors, après, c'est le premier volume. Ça se trouve, j'aurai une surprise plus tard, quoi.
Ce serait cool.
Mais bon, vraiment un manga qu'il faut voir sur le long terme. Très classique au début, mais voilà, on sent quand même un petit potentiel, quoi. Voilà.
D'accord. À surveiller.
À surveiller très près. Et surtout qu'en plus, ce qui est pas mal, c'est que pour le premier volume, ils mettent le prix découverte en ce moment. Kana, je trouve ce qui est bien à 5,45€. Donc voilà,
c'est honnête.
Voilà. Ouais, c'est bien pour commencer, quoi. Et on verra pour plus tard. Et c'est tout pour le dossier manga. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Merci bien.
Bien sûr.
Et donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'attaquer avec le dossier de notre ami Botan qui va vous faire une recette rapide.
Alors rapide à faire, un petit peu moins rapide puisque vous avez quand même un peu de cuisson, voilà, et un peu de découpe de légumes. Donc je vais vous parler du curry japonais. Alors le curry japonais, pourquoi japonais? Parce qu'il y a plein de curry qui existent, le curry indien, le curry, vous avez alors, en fait, presque autant de curry que de pays qui existent dans le monde, ou de, en fait, de différenciation de ça. Par exemple, en France, notre curry français, ce serait en fait le pot-au-feu. Voilà, littéralement, voilà. Donc c'est ce genre de plats qui sont un peu mijotés et qu'ils sont assez souples, en fait. L'avantage, c'est ça. Et donc le curry japonais, le principe, c'est que vous allez avoir une sauce au curry. Donc pour la faire, en général, vous avez de l'eau, vous allez laisser réduire avec du curry que vous pouvez acheter qui est en pâte. Je vous le conseille, c'est très bien. Vous en avez différents types. Et l'avantage de ce plat-là, c'est qu'en fait, vous pouvez vraiment, vraiment le changer comme vous voulez. Vous pouvez faire quelque chose de très épicé, quelque chose de très doux, quelque chose qui sent absolument pas le piquant, quoi. Voilà. Et vous pouvez aussi beaucoup changer les légumes. Alors, vous avez plusieurs versions. Vous allez avoir des versions végétarienne, vous pouvez ne pas mettre de viande, ça marche très bien. Vous avez des versions avec des viandes, alors là vous pouvez vraiment vous faire plaisir, porc, poulet, bœuf, voilà, il y a vraiment tout qui marche. C'est l'avantage de ça. Et donc le principe, c'est que vous allez avoir donc une sauce assez sirupeuse, donc assez épaisse, et le but, c'est de mettre des légumes qui vont avoir de la texture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mordre dedans, sinon vous avez une purée, c'est pas forcément agréable. Et donc pour ça, on va beaucoup utiliser les patates. Donc prenez des patates pour les vapeurs, donc des patates amandines par exemple, ça marche très bien, et des carottes qui tiennent très bien la cuisson et qui gardent de la texture. Et à côté de ça, en fait, vous pouvez rajouter énormément de légumes qui marcheront. Vous avez des légumes qui vont peut-être demander moins de cuisson, donc à voir selon comment vous voulez faire votre plat. Mais par exemple, moi, j'utilise des courgettes, puisque ça donne aussi de l'eau, en fait. Et aussi, là où j'ai un grand débat avec le râteau, des tomates, pour donner de la même raison, pour donner de l'eau. Alors, pourquoi ça peut paraître choquant? Parce que si vous en mettez beaucoup, en fait, ça peut vraiment très vite emporter le goût et vraiment faire une bolognaise, en fait, et ça n'a pas d'intérêt. La façon dont j'utilise, moi, c'est que je vais séparer mes légumes en deux types, c'est-à-dire les légumes de bouche, donc pour mâcher, et les légumes de bouillon, donc pour vraiment faire la base et mettre le moins d'eau possible pour pas dénaturer le plat et enlever toutes les saveurs dans le bouillon. Donc voilà, après, vous avez vraiment, c'est vraiment très très souple, en fait. C'est l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment mettre un peu les légumes que vous aimez bien, etc. Bon, il y a quelques petits trucs qu'il faut se méfier quand même, hein.
Les tomates.
Ouais, pas forcément les tomates, mais je pense par exemple à des légumes qui sont extrêmement forts en goût. Vous allez avoir l'aubergine, des vieux légumes français, vous les oubliez. Tout ce qui est topinambour, etc., ça va vous emporter le goût, c'est pas la peine. Vous pouvez vraiment mettre énormément de légumes, mais notamment les légumes à potage, en fait. Vous pouvez mettre du chou, vous pouvez mettre énormément de choses, mais il faut savoir le doser pour pas que ça vous emporte le tout. Le but, c'est vraiment d'avoir un goût de curry que vous avez et donc qui se mélange aux légumes quand vous les mangez. Voilà. Mais c'est pas d'avoir un espèce de bouillon qui a le goût des curry et des légumes, c'est de quand vous mangez le légume, d'avoir le goût du curry qui vient sur le légume et c'est tout l'intérêt. Alors ça se mange avec du riz en général. Mm-hmm. Donc vous servez, alors c'est pas forcément à servir sur le riz, vous le servez souvent à côté parce que vous pouvez manger séparément ou ensemble, mélanger, etc. Ça dépend vraiment des goûts. Et donc le principe de la recette, c'est que vous allez prendre vos légumes, vous allez éplucher tout ce que vous pouvez au maximum. C'est mieux de pas avoir de peau puisque vous allez laisser cuire un certain temps, donc certains légumes vont avoir tendance à fondre. Et donc si vous avez juste la peau, c'est pas agréable.
Avec la cuisson, tu penses qu'on a pour combien de temps pour faire un...
Alors voilà, c'est ce dont j'allais dire. Et ensuite, donc vous avez la découpe qui est très simple en fait. Vous coupez tout en cubes à peu près de la même taille. Mm-hmm. Vous embêtez pas, vous faites tout des cubes et vous voilà. Mettez dans la casserole et vous laissez cuire tout à partir de zéro. Et alors avec la cuisson, en fait, ça va dépendre déjà de la quantité que vous allez faire. Plus vous allez faire gros, plus il va falloir laisser cuire, ce qui est normal.
Ça dépend de la plaque de
voilà,
cuisson aussi.
Ça va
si
dépendre de la puissance
club,
de votre feu.
Vous en avez pour 3
et
heures.
Justement aussi, là où vous vous méfiez, c'est mettez pas trop fort votre feu. Je me suis fait avoir une fois comme ça, c'est-à-dire que j'ai mis mon eau, j'ai laissé le feu fort pour essayer de faire prendre la cuisson plus vite. Ça m'a fait de la purée de pommes de terre. Ça, en fait, ça m'a cuit tous mes légumes vapeur et du coup, ça fait de la purée après. Ce qui est dommage.
Hein,
ça avait bon goût, mais faites attention, voilà. Mettez pas le feu trop fort et n'hésitez pas à le laisser cuire. Alors, une bonne demi-heure, c'est quand même bien requis hein, pour qu'au moins vous ayez des carottes qui au moins cuit, quoi. Parce que sinon, vous allez avoir vraiment un croquant dans les carottes qui va être presque gênant. Elles vont être presque crues, quoi. Donc, une bonne demi-heure, sachant que c'est les carottes qui vous donnent un peu, le tempo, quoi. Donc, si les carottes sont cuites, vous pouvez y aller. Si vous les aimez bien croquantes, etc. À vous de voir. Oui, j'ai fait après, j'ai pensé après, désolé. Mais voilà, et donc vous allez pouvoir mettre, voilà, donc après vraiment, voilà, la cuisson, vous pouvez cuire très peu, et l'avantage, c'est que si vous rajoutez de l'eau au final, et que vous cuisez vraiment à feu doux, tant que l'eau est pas totalement évaporée, vos légumes vont pas surcuire, donc vous pouvez rajouter un petit peu d'eau pour remettre, etc., et les garder très longtemps à la cuisson, pour les garder chauds, notamment pour les servir sur long terme, si vous êtes une grosse tablée. Voilà.
Et après, c'est tout bon.
Vous êtes une grosse tapette, j'étais genre. Mais calme-toi, sur la radio.
Une grosse tablée, quand même, voyons.
Ok. Et là, on a notre curry.
Et voilà, vous avez votre curry, en fait. C'est vraiment très simple. Alors, si vous voulez ma recette à moi, donc, bon, je suis en train de la faire encore, hein, donc ça demande encore des ajustements. Mais j'ai, pour les légumes de bouche, je vais avoir des poivrons, pour donner un peu de saveur et un peu de couleur. Des carottes, des pommes de terre. Donc, vous prenez beaucoup de pommes de terre, puisque c'est votre base. Un peu moins de carottes, mais quand même une bonne quantité. Et vous allez prendre quelques poivrons pour donner de la couleur, un peu de texture, un peu de goût. Et à côté de ça, je mets quelques tomates pour rendre de l'eau, quelques courgettes pour rendre de l'eau, et c'est tout. Vraiment, okay. Voilà, c'est très simple.
Après, vous pouvez rajouter des petits trucs aussi. Moi, j'aime bien les petits pois.
Oui, voilà. Ah, ça, c'est plus sur du. Bon. Alors, ça va plus être du curry indien, du coup, en fait.
Ouais,
enfin, tu vas changer.
Oui, non, mais bien sûr.
Donc
mais
vous pouvez après,
que
voilà.
Ça rajoute vraiment un truc. Moi,
après, c'est un petit truc qu'on peut rajouter si vous aimez bien la sauce soja. Elle est pas obligatoire.
D'accord.
Je vous conseille plutôt de la salée parce que vraiment sucré, ça va vraiment dénaturer le plat. Mais
ok. Et ben moi, j'aimerais bien demander à Chamallow, qu'est-ce que toi tu rajouterais dedans?
Et ben du sucre, attends.
Ah bah oui, question. Évidemment, c'est classique.
Au revoir papa, des Kit Kat, du Japon, allez.
On applaudit donc Botan pour cette curry. Et parce que il y a les recettes de Botan, il y a aussi les recettes de Chamallow.
Mais c'est pas voilà. Tout à fait la même chose. Il y en a, je comprends pas trop.
C'est un autre style.
Mais on va dire c'est du passé, c'est de la cuisine.
Allez, à tester, prenez celle de Botan.
Ouais, si vous voulez survivre. Alors, donc du coup, vous êtes toujours sur Cooler FM pour l'émission Tokyo, mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire quelques sorties. Donc voilà, il y a les mangas qui sortent, on essaye d'en traiter un peu. À Tokyo Humé. Donc du coup, on commence avec les sorties Glénat avec le Bleach numéro 73, l'avant-dernier. Urahara, donc prisonnier de la zone empoisonnée créée par le vent standing d'Askin, active son Bankai. Ses diverses stratégies ingénieuses commencent à triompher de son adversaire. Pendant ce temps, au dernier étage du château, Ichigo arrive dans la salle où trône le roi des Kinchi. Ensuite, chez Kana, donc, on a le Seraph of the End numéro 10. Donc, c'est un shonen d'action au dessin impeccable, très attendu par la communauté manga, l'humanité qui est menacée d'extinction par les monstres et vampires. Ça va saigner. Un héros dessin tragique dans la veine de Sasuke, de Naruto, et un méchant très charismatique. À découvrir donc du coup dans Seraph of the End. On enchaîne avec les sorties Kaze.
Alors, Black Clover volume 6. Asta combat seul Varro, transformé en effroyable monstre par Sally, l'extravagante scientifique. Heureusement, Gosh, revenu sur ses pas, prête sa force au jeune garçon pour terrasser le kidnappeur d'enfants. La victoire est presque acquise. L'éminence de l'œil du crépuscule apparaît soudainement et change la donne.
Ok, sortie Pika.
Seven Deadly Sins, volume 21. Que les combats commencent. Meliodas et ses amis ont réussi à déjouer les pièges du labyrinthe et les voilà tous qualifiés et répartis en équipes de deux pour disputer des matchs à mort contre de redoutables adversaires. Elisabeth et Hélène, entraînées dans ce tournoi contre leur gré, vont ouvrir le bal. Vont-elles réussir à se mesurer aux impressionnants combattants qui leur font face?
Ok, sortie Soleil, s'il vous plaît.
Nous avons Be My Slave, volume 2. Bien choisi.
Ça correspond tellement.
Alors, Azusa et Kaoru franchissent le pas et sortent enfin ensemble officiellement. Azusa est sur un petit nuage, mais en secret, Kaoru n'arrive toujours pas à oublier Kanapeche. Il essaye malgré tout de rester honnête et de rester dans les et de respecter les sentiments de sa nouvelle petite amie. Mais petit à petit, une brèche se forme entre eux.
Ok, merci pour ce joli résumé. Sorti dès le cours ton cam, s'il vous plaît.
Pardon, désolé. Jojo's Bizarre Adventure, saison 8, Jojo Lion, volume 4. Afin de rencontrer Holly Joestar, la mère de Yoshikage Kira, Josuke se rend à l'hôpital universitaire où celle-ci est hospitalisée. Mais un stand ayant l'apparence d'un motard noir lui barre la route. Au même moment, Yasuo arrive à l'hôpital et parvient à s'approcher de Holly.
D'accord, ok. Et vous savez que... Alors, petite anecdote, on m'a posé une question, mais c'était vrai, hein, c'était sérieux. On m'a demandé si, en fait, Joestar, ça avait un rapport avec le Joestar, le nôtre de Joestar. Ouais, ouais. Fait-il partie de la famille? Et ben ça,
on sait pas,
on
en
le verra.
On le verra dans la prochaine série, peut-être.
Allez, on finit avec la sortie de ton cam.
Donc, on va parler de Food Wars volume 17. Donc, depuis la réforme de l'Académie Totsuki par Asami Nakiri, son nouveau proviseur, Erina est privée de sa liberté. Guidée par Alice, elle parvient néanmoins à s'échapper du manoir où elle était cloîtrée. Après une folle course dans l'enceinte du campus, Erina arrive au dortoir de l'étoile polaire. Malheureusement, une main maléfique et furtive se rapproche dangereusement.
Ah, c'est un peu dégueulasse là.
Ouais, ouais, ça sent le fanservice.
Allez, c'est tout pour la sortie. Allez, donc maintenant il est temps de terminer l'émission avec le fameux jeu de
Tokyo Hume.
Alors pour le jeu Tokyo Hume, je vais faire un peu salaud comme la semaine dernière. Donc
oh là là,
c'est
là
une question où ça va demander quand même.
Avec le bateau, quoi.
C'est très rapide. Alors, donc du coup, on fait quasiment les mêmes équipes qu'à la semaine dernière, d'accord, on va dire. Je veux un manga ou un dessin animé qui traite de cuisine. Allez, on commence par vous.
Food Wars.
Ah, ok, d'accord. Ensuite,
le petit chef.
Le petit chef.
Enfin, Matano Pan là.
J'ai l'accord. Allez.
Un manga qui traite de cuisine, genre principalement
cuisine ou tout. Hein.
Si je te donne le nom complet de ce qu'il a essayé de dire, ça.
Non.
Ça
pâtisserie, boulangerie, j'accorde tout.
Yakitate Japan.
Ah bah oui.
J'ai quand même donné un grand indice.
Ouais. On essaye quand même. On sait jamais.
Allez, ensuite.
Bento.
Ouais, c'est vrai.
C'est celui que j'avais en tête là.
10, 9. 8
On a neutre, je crois.
Très bien, parfait. Alors, attends.
Alors. Ah, je croyais l'oratoire, en fait, elle en avait un, mais en fait, pas du tout.
Bah, en fait,
ah
pas
non,
du
non,
tout.
Pas
non,
du
non,
tout.
Elle cherche, du coup. Okay. Mais elle savait pas dans quelle équipe elle était. Donc...
Ah, ok, d'accord.
Parce que
au final, ça change pas grand chose.
Oui, oui, c'est, oui. Pas, c'est un détail.
Alors, hein. Qu'est-ce qui pourrait parler de cuisine?
Les gouttes de Dieu.
Bah, ouais,
ah, ça compte,
bah,
je
tellement.
Crois.
C'est vrai. Tellement.
Hell's Kitchen.
Ouais. Bien joué.
Ah, bah, on va pas y arriver là.
Il y en a un connu. Vous pouvez quand même. C'est cuisine.
L'alchimie,
création.
Ça compte.
Création.
Cuisine.
Création.
Traction, ouais.
Ah, traction.
9, 8, 7.
Ah non, j'ai pas
6,
du tout.
5.
J'ai pas du tout
4,
du tout, moi.
3, 2, 1. Allez, victoire de la team de Ace. Celui auquel je pensais, c'était Toriko.
Ah, mais oui.
Non, j'ai pas vu.
Ouais. Ah, mais non, je connais pas.
Ah, ouais, menteur.
Je l'ai jamais vu, ouais. Donc, je le connais de nom, je savais que c'était un jeu.
Et vous savez qu'au Japon, eh ben, il y en a plein des mangas qui traitent à la cuisine. Mais
je sais, mais j'en ai pas du tout, quoi.
Et il y a quoi d'autre qu'on pourrait connaître, par exemple?
Est-ce qu'on avait dit Glouton et Dragon?
Ah bah non.
Ah bah ouais.
J'ai vraiment aimé.
Mais en fait, question, je me pose. Est-ce que les jeux, genre les mangas de jeux où ils ont des capacités de cuisine, ça marchait?
Genre Cooking Mama.
Bah genre SAO, en fait, le mec il apprend à cuisiner tout le temps. Ou Log Horizon.
Je sais pas.
Non, ouais, non, non, c'est tellement secondaire que non,
pas,
d'accord.
C'est vrai que c'est
voilà,
pas
non, par contre, celui d'Orato, celui qui a dit là, j'aurais accordé à coup sûr, quoi. Mais bon, le jeu est terminé. Allez donc. L'heure est venue de se quitter.
Oh,
allez, on se retrouve la semaine prochaine. Wouhou. Avec évidemment tous nos chroniqueurs qu'on appelle très fort. On remercie évidemment tous nos partenaires. On remercie vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, Tokyo Hume un jour.
Tokyo Hume toujours.
Allez, bye bye, ciao.